BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue, nous terminons cette semaine ensemble, toujours avec énormément d'expertise pour vous permettre de gérer au mieux votre patrimoine. C'est BFM Patrimoine qui débute bien sûr comme chaque jour par l'Actu Éco et c'est Faïza Younzi.
BFM Business, l'Info Éco, Faïza Younzi.
Et à la une, la résilience de l'économie française, la croissance du secteur privé a accéléré plus que prévu en mars, selon l'indice Flash Composite. Il bondit à 54 points. L'activité économique est portée par les services. La production manufacturière, elle, continue à se redresser, mais elle reste sous le seuil de contraction. Le message aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne aux dirigeants de l'Union Européenne, elle devrait les rassurer sur la stabilité des banques de la zone euro. Deuxième jour de ce sommet européen marqué par les tensions entre la France et l'Allemagne sur le nucléaire. Autre sujet de crispation, l'interdiction de la vente de véhicules à moteur thermique à l'horizon 2035. L'Allemagne a surpris en bloquant ce texte clé sur les émissions de CO2. Elle plaide pour une proposition ouvrant la voie aux véhicules fonctionnant au carburant de synthèse. Au lendemain de la mobilisation massive contre la réforme des retraites, les forces de l'ordre sont intervenues tôt ce matin à la raffinerie de Gonfreville en Seine-Maritime, la plus importante du pays, pour permettre l'accès aux salariés réquisitionnés. Le pompage a redémarré pour approvisionner la région parisienne en carburant, d'après le gouvernement. Du côté de la mobilisation, les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève, la 10e, ce sera mardi prochain. Des rassemblements sont également prévus tout au long de ce week-end en région. Le trafic dans les aéroports reste perturbé. Un tiers des vols annulés aujourd'hui et dimanche à Orly, un sur cinq à Lyon et Marseille. Également dans l'actualité, cette victoire pour plusieurs mairies, dont celle de Paris, dans leur bras de fer avec les entreprises de livraison rapide comme Gorillaz, Getty ou encore Frishti. Les dark stores sont bien des entrepôts et non pas des commerces. Le gouvernement traduit aujourd'hui au journal officiel la décision du Conseil d'État. Ces locaux où sont stockés leurs produits pourront donc être contraints de fermer si le plan local d'urbanisme interdit ce type d'activité à leur adresse. Le Far West des influenceurs, c'est fini. Bercy lance aujourd'hui mesures pour réguler leur activité. Après 3 mois de concertation, le gouvernement va présenter son plan pour mieux encadrer ce secteur en plein boom. L'activité a été secouée par de très nombreux scandales ces derniers mois. Le gouvernement veut soumettre notamment les influenceurs aux mêmes règles publicitaires que sur les médias traditionnels. Accenture taille dans ses effectifs. Le cabinet de conseil va licencier 19 000 personnes, soit 2,5% de son personnel sur les 18 prochains mois. L'entreprise veut ainsi réduire ses coûts de structure. Et on termine avec la Corée du Sud qui va demander l'extradition de son ressortissant Do Kwon, le fondateur de la crypto-monnaie Terra, qui a été arrêté hier au Monténégro. Il était en fuite, recherché par la justice américaine, qui l'a inculpé pour fraude. Il est accusé d'avoir menti aux investisseurs qui ont perdu près de 40 milliards de dollars avec le crash de la crypto-monnaie Terra l'an dernier.
Merci beaucoup Faïza. Faïza Younzi, chaque heure pour vivre au rythme de cette actualité économique. Et nous tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, direction la Bourse de Paris.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Pour retrouver Antoine Larrigauderie, qui chaque jour depuis cette salle de contrôle du CAC nous permet de vivre au rythme des pulsations de la bourse. Antoine, que se dit-on pour terminer cette semaine, dernière séance?
Ben, on a commencé la séance par une petite consolidation, mais là, elle prend de franches allures de correction. On a quand même largement intensifié le niveau de baisse, moins 1,29% maintenant pour le CAC 40, qui va commencer doucement à tester les 7000 points, 7047 points. On a un repli assez marqué aussi du côté du DAX à Francfort, moins 1,28 et moins 1,37 pour l'Eurostox 50. Alors, d'une part, on sortait de 4 séances de hausse consécutives, donc c'est logique que le marché souffle un peu, s'offre une pause, prenne quelques profits. Mais il y a un facteur un petit peu aggravant à cette tendance, et Faïza vous en a parlé, ce sont les indices PMI Market pour le mois de mars en zone euro. On les a eu, alors notamment pour la France et l'Allemagne. C'est vrai qu'il y a un redressement, mais enfin, on est quand même sensiblement en dessous des attentes. Ce qui explique tout ça, c'est sans doute que ce sont des indicateurs avancés, donc qu'on a commencé à prendre en compte l'intense stress bancaire de ces dernières semaines sur les indicateurs et les intentions des directeurs d'achat de l'industrie européenne et des services. Et puis aussi qu'on anticipe peut-être des mois un petit peu plus difficiles du fait de possibles difficultés de financement, d'un secteur bancaire qui va continuer à souffrir un petit peu plus longtemps que prévu, d'une dégradation de la conjoncture et peut-être des errements en matière de régulation européenne, que ce soit pour l'automobile, pour tout un tas de sujets, pour l'énergie, etc. Une période d'incertitude qui pourrait nuire un petit peu aux perspectives justement qui sont retransmises par ces indices PMI. En tout cas, l'effet est très net. On a une nette consolidation sur les actions. On a une nette consolidation de l'euro aussi. Vous vous souvenez, il y a deux jours, on était au-delà d'1,09 face au dollar, hein, sur des plus hauts de deux mois. Et là, on redescend quand même assez violemment. 1,0783. Et puis, l'effet sur les taux 10 ans est assez sensible, hein, avec une forte baisse des taux sur ces dettes longues. On est à 2,63 sur la dette française 10 ans, à 2,08 maintenant tout juste pour la dette allemande, et du côté américain on descend à 3,35. Donc du coup, bah, c'est le secteur bancaire qui était en difficulté ces derniers jours qui trinque. Moins 3,9 pour la Société Générale, plus forte baisse de l'indice à 20,36 €. BNP Paribas moins 3,02 à 51,67 €. On a également tout un tas de valeurs cycliques, hein. Renault moins 2,92% à 35,73 €. ArcelorMittal moins 2,87 à 25,68 €. Puis alors, du côté des valeurs en hausse, bah, cette baisse des taux obligataires stimule un petit peu les valeurs de croissance. Donc Capgemini gagne 0,1% à 168,50 €. Dassault Systèmes plus 0,24 à 37,84 €. Hein, la tech qui est rachetée, tout comme le luxe, avec Hermès qui gagne 0,31% à 1,807,50 €. Et dans le même ordre d'idée, on a Pernod Ricard plus 0,48% à 207,40 €. À signaler, la plus forte baisse du SBF 120, elle est toujours pour Technip Energy qui perd 6,5% à 19,34 €. Encore une séance difficile pour Casino qui perd 5,5% à 6,34 €. Et la plus forte hausse de l'indice large, elle est pour Sartorius Stedim, plus 1,36 à 304,60 €. Le CAC donc moins 1%, 7065 points. Et l'euro face au dollar donc a bien décroché à 1,0785. Cédric.
Antoine Larigauderie, notre envoyé quotidien au cœur de cette salle de contrôle du CAC. Merci Antoine. Les actions continuent à nous occuper.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Avec Sid Bachir chez Euroland Corporate. Bonjour Sid.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Vous nous parlez ce matin de MEMSCAP, c'est ça?
Absolument.
On commence peut-être par un petit portrait?
Complètement. Alors MEMSCAP, c'est un des leaders français des systèmes microélectroniques semi-conducteurs. Le titre a eu un très beau parcours depuis le début de l'année, mais on pense qu'il y a encore de l'upside au vu de ses perspectives de croissance et de la solidité de son bilan. Pour revenir un peu sur son activité, MEMSCAP conçoit, fabrique et commercialise depuis 25 ans maintenant des MEMS. Ce sont des systèmes microélectroniques à haute valeur ajoutée qui sont destinés à une large gamme d'applications industrielles. On va retrouver notamment des capteurs de pression pour l'aéronautique et le médical, mais également des composants pour les télécommunications optiques. Ces petits dispositifs qui sont miniatures permettent entre autres de convertir un signal physique en un signal électrique. Aujourd'hui, l'offre de MEMSCAP, elle est très large et innovante. Et grâce à ça, le groupe a pu se constituer un portefeuille de clients important et très international avec de très belles références. À titre d'exemple, sur son activité aéronautique, les capteurs de MEMSCAP équipent aujourd'hui plus de 50 000 avions dans le monde et ils sont qualifiés auprès des plus grands constructeurs tels qu'Airbus et Boeing. Chez Euroland, nous, on pense que c'est le bon moment de s'intéresser au titre, car le groupe est à un moment clé de son histoire. MEMSCAP a communiqué au début du mois sur son nouveau plan stratégique à horizon 2026, qui devrait lui permettre d'afficher une croissance annuelle moyenne de 20%. Pour cela, il devrait bénéficier notamment du retour de la croissance dans l'industrie aéronautique, mais également des besoins élevés dans le médical. De notre côté, nous, on attend une forte croissance dès 2023, avec une hausse d'environ 50% du chiffre d'affaires à 14 millions d'euros. Cette forte croissance, elle sera logiquement associée à une nette amélioration de la rentabilité également. Le groupe a annoncé en décembre dernier la cession d'un actif non stratégique afin de flexibiliser sa production. Et cette cession, en fait, elle devrait permettre à la société de changer considérablement son profil de rentabilité. De notre côté, on attend une marge opérationnelle courante de 13% dès 2023 contre 3% en 2022 grâce à l'effet de cette cession. Dernier point en matière de trésorerie, la société affiche des fondamentaux solides avec 5 millions d'euros de trésorerie nette et 17 millions d'euros de capitaux propres. Concernant la valorisation, elle nous semble également très attractive. La société se paye actuellement 9 fois son résultat opérationnel courant 2023 contre 12 fois pour le secteur. Et pour l'ensemble de ces raisons, on est à l'achat, nous, avec un objectif de cours à 4,15
€. Ouais, malgré tout, enfin, quand on regarde, parce que c'est intéressant aussi de regarder les parcours des titres qu'on évoque le matin, et c'est vrai que là, on est quasiment, enfin, non, on n'est pas quasiment, on est sur les plus hauts historiques. Il reste vraiment du potentiel.
Alors, nous, compte tenu du fort degré d'innovation du groupe, mais également de sa forte dimension internationale, on pense que le groupe a vraiment une force afin de capter la croissance sur ces marchés. Et cette force, cette croissance sera accompagnée d'une véritable amélioration de la rentabilité qui devrait permettre de dégager des cash flows assez significatifs et permettre de continuer de revaloriser le cours dans les années futures.
On est à 3,24 € sur MEMSCAP et vous visez
4,15 €,
donc recommandation d'achat. Signé Sid Bachir, merci Sid. Et très bonne fin de semaine sur le marché. Roland Corporate qui nous accompagnait ce matin. Le marché, justement, qui laisse filer du terrain. 7053 points. On perd 1,2%.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et c'est Patrice Gautry qui, comme chaque vendredi, nous attend. Duplex depuis Genève et l'Union Bancaire Privée. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Merci d'être là. Que retenir de nos banques centrales, de leur stratégie? Finalement, on clôt, je ne sais pas si le mot est exagéré, vous me direz ce que vous en pensez, mais on clôt une quinzaine réservée aux banques centrales. Qu'est-ce qu'on en retient?
Oui, alors c'est une étape importante puisqu'elle nous permet de voir que, grosso modo, l'ensemble des banques centrales suit à peu près une stratégie similaire. Alors, cette stratégie se compose peut-être de trois volets. Le premier volet, c'est les taux continuent à monter. Les taux d'intérêt directeurs, malgré effectivement l'environnement stressé bancaire que l'on continue de connaître des deux côtés, des trois côtés du côté de l'Atlantique, la Suisse encore. Et on a effectivement donc un biais sur la poursuite éventuelle donc de ce resserrement monétaire. C'est du côté de la Fed, si besoin est, du côté de la Banque d'Angleterre. Et ça a été rappelé par plusieurs déclarations de gouverneurs donc de la Banque Centrale Européenne.
Bien sûr.
Le deuxième volet, ce sont les injections de liquidités. Injections de liquidités directes donc dans les banques. On voit que, bien entendu, l'appel en fait des banques commerciales à ces options de liquidité reste important, notamment aux États-Unis. Et puis le troisième volet, eh bien, c'est la réduction du bilan des banques, c'est-à-dire que la précision entre injection de liquidité et volonté de réduire le bilan des banques, eh bien, reste en place, puisque bon nombre de banquiers centraux ont dit que les injections récentes de liquidité étaient des mesures temporaires et que derrière, il y aurait fondamentalement donc encore la poursuite du ralentissement de la taille du bilan des banques. Donc au total, effectivement, on a une politique monétaire qui offre un régime un peu différent de ce qu'on en avait donc en début d'année, c'est-à-dire il peut y avoir encore des hausses de taux, même si aux États-Unis, au Royaume-Uni et peut-être après en Europe, en zone euro, on s'approche donc des taux terminaux, mais il y a encore effectivement la possibilité de hausses de taux, ce qui évacue, heureusement ou malheureusement, mais ce qui évacue effectivement les anticipations de baisse de taux d'intérêt directeur telles qu'elles sont reflétées dans les anticipations ou les prix des marchés monétaires sur un horizon, par exemple, du troisième trimestre.
Vous avez déjà évoqué plusieurs fois la question bancaire, la crise. Enfin, y en a-t-il une et est-elle terminée s'il y en a une?
Alors, en fait, quand on regarde les grands indices boursiers, même si, effectivement, vous l'avez rappelé dans votre titre, les bourses européennes sont en légère baisse, mais grosso modo, quand on regarde aussi la bourse américaine, les grands indices, en fait, ont certes baissé, mais il n'y a pas, je dirais, de nouvelles trajectoires baissières. Donc, ce qui veut dire que, globalement, en fait, il y a peut-être moins de risques systémiques retenus par les opérateurs. Il y a aussi un peu une certaine stabilisation du côté des taux longs, mais par contre, les problèmes demeurent. Les problèmes, effectivement, on le voit, c'est l'appétit pour la liquidité du côté des banques régionales ou de taille moyenne, donc aux États-Unis. Donc s'il y avait une inquiétude, eh bien, elle est plutôt du côté américain, alors qu'on a vu un grand renfort de communication de Madame Lagarde et de la part, en fait, aussi des banquiers centraux européens, de dire il n'y a pas de problème de stabilité du côté des banques européennes. Alors bien entendu, on va prendre ça avec mesure, et ça a été rappelé, y compris en Suisse, par la Banque nationale suisse, en disant on a fait ce qu'il fallait pour essayer de colmater et d'éviter effectivement une crise bancaire majeure. Donc, crise bancaire majeure, inquiétude forte et systémique, peut-être pas. Par contre, effectivement, encore un problème, on l'a vu avec les changements, encore un problème du côté des banques régionales américaines, et on l'a vu avec le changement de communication qui bouge beaucoup du côté de Mme Yellen, qui revient avec l'éventualité d'une assurance des dépôts.
Toutes ces questions autour des banques, ça justifie l'attrait de l'or?
Alors, l'attrait de l'or, c'est une assurance contre des risques qui seraient majeurs, c'est-à-dire en fait un risque systémique. Et on a vu effectivement en début de semaine que l'or, les cours de l'or remontaient, et puis après ça s'est calmé, c'est revenu un petit peu, et puis je dirais paradoxalement, c'est peut-être certaines cryptos, les crypto-monnaies qui redeviennent en faveur, alors que là, effectivement, on a quand même pas mal de problèmes pour un économiste traditionnel à justifier cette position, avec effectivement des banques qui étaient impliquées, notamment aux États-Unis, dans leur financement, qui elles ont connu des problèmes. Donc aujourd'hui, l'or serait une assurance tout risque en cas effectivement de risque systémique majeur des banques ou des systèmes bancaires, et effectivement une alternative au dollar, puisque celui-ci a été plutôt faible. Donc attrait de l'or, oui. Là, c'est pas un conseil que je donne, hein, c'est une analyse. Attrait de l'or, oui, mais effectivement, il faut penser à une crise majeure, et c'est l'axe, en fait, la stratégie retenue par les banques centrales et leur communication essaye d'éviter justement ce point le plus négatif.
Et est-ce que toutes ces questions vont avoir un impact sur l'activité des prochains trimestres? On pense notamment à la distribution de crédit, inévitablement.
Exactement. Et c'est là où, effectivement, M. Powell, comme la Banque Centrale Européenne, a indirectement passé le relais, c'est-à-dire on va voir en fait ce que vont faire les banques commerciales. Donc le coût de financement des banques commerciales est en train de monter, notamment aux États-Unis, on voit bien l'appétit pour les dépôts, l'appétit pour la liquidité, donc leur coût de financement va augmenter, le coût du crédit va augmenter, et peut-être même les guichets de crédit seront moins disponibles pour l'immobilier. Aux États-Unis, c'est notamment l'immobilier commercial qui risque de souffrir le plus de cette situation, mais on aura quand même un petit peu le même vent. Peut-être.
Petit problème de liaison son, visiblement. Patrice, on ne vous entend plus. On va essayer. Vous nous entendez, Patrice?
Oui, je vous entends.
Bien, bon, donc, très bien.
D'accord. Donc, je disais effectivement un guichet de crédit qui est un peu moins disponible et des quantités de crédit qui vont être un peu plus rares pour crédit à la consommation, crédit à l'immobilier. Et crédit, malheureusement, peut-être pour les petites et moyennes entreprises, c'est ce qu'on va surveiller surtout aux États-Unis et aussi indirectement donc en Europe, et ça aura un impact effectivement sur l'activité. Est-ce que ça provoque une récession forte? Je ne pense pas, mais par contre, ça va accélérer sur les phases de ralentissement souhaitées par les banques centrales et telles qu'elles étaient aussi attendues en début d'année, tant en zone euro qu'aux États-Unis.
Donc on va déjà le guetter sur le PMI là à 11h?
Alors oui, on a déjà des indications, puisque les premières estimations donc, qui sont sorties en Allemagne et en France sur le secteur manufacturier ne sont pas très très bonnes. Donc ça baisse un petit peu, ça baisse beaucoup en Allemagne, donc on a aussi beaucoup de volatilité. Et puis le paradoxe, alors c'est peut-être pas nécessairement une bonne nouvelle, le paradoxe est que l'indicateur des services a augmenté en France et en Allemagne. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle sur le côté résilient de l'activité. Par contre, c'est peut-être pas une bonne nouvelle sur côté de l'inflation. Et effectivement, ça peut encore nourrir des inquiétudes. Donc à 11h, les PMI agrégés zone euro devraient révéler ça. Faiblesse du côté des manufacturiers, mais solidité du côté des services. Ce qui n'est pas nécessairement le scénario le plus confortable pour les banques centrales.
Allez, en quelques secondes, qu'est-ce que vous notez dans votre agenda de la semaine prochaine?
Les prix cœur PCE donc aux États-Unis, et puis l'indice des prix flash pour la zone euro qui devrait baisser un petit peu sur le headline, mais par contre remonter 5,8% sur l'inflation cœur. Donc là, effectivement, le travail sur l'inflation n'est pas terminé.
Merci beaucoup, Patrice. Patrice Gautry, l'Union bancaire privée, en duplex avec nous depuis Genève. Très bonne fin de semaine, Patrice. Et à très vite sur l'antenne. Le marché parisien, lui, il consolide à moins 1,2%, 7053 points.
BFM Business. BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Romain Cœur de Roy.
Bonjour.
On accueille ce matin Thierry Vignal pour Mastéos. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous présentez votre première observatoire de l'investissement immobilier, Kesako.
Observatoire européen.
Européen.
On a été assez ambitieux, on a demandé à 8200 Européens de nous parler de leur perception de l'investissement locatif et de la rénovation énergétique. Ah. Harris nous a fait un acheté, un offert, donc on a pris les deux. Et il y a plein de contrastes et de divergences culturelles qui sont assez fascinantes. Comment est perçu l'investissement locatif ? Alors en France, c'est assez saturé, tout le monde connaît, il y a 82% des Français qui connaissent. C'est pareil au UK, où 90% des gens ont déjà entendu parler du buy to let. Et donc ça forme un premier groupe de pays avec des marchés très saturés au nord-ouest. Ensuite, on a au sud, les pays méditerranéens, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui ont un intérêt incroyable pour l'investissement locatif, mais sur des marchés qui sont très immatures, donc les gens n'en ont pas fait beaucoup, mais sont fascinés, on va le voir. Et à l'est, on a l'Allemagne et le Pays-Bas, où il y a un désintérêt total. Donc c'est incroyable de voir de tels contrastes, et c'est vraiment très fort.
Mais
dans
on imagine qu'au-delà de l'aspect culturel, il y a quand même des réalités de marché qui expliquent justement ces différences de perception.
Ouais, alors bon, il y a déjà la maturité des marchés en France, il y a un bon niveau d'information. En Espagne, en Italie, au Portugal, le marché bancaire est pas très friendly avec les investisseurs locatifs. Et il y a aussi une histoire de rendement. J'ai l'impression que sur les marchés où on commence à sentir un désintérêt, on a des rendements qui sont pas suffisants en fait pour exciter les gens par rapport au livret A. Par exemple, en France, c'est le livret A qui est privilégié par rapport à un investissement immobilier.
Et ça va être sans doute de plus en plus le cas à mesure
avec
que les taux
remontée des taux. Exactement.
Ouais.
Alors que sur les marchés rentables au sud, on a l'investissement immobilier qui est en première position, par exemple en Espagne et au Portugal. Pour l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est peut-être pareil. Alors les Pays-Bas, c'est absolument fascinant. Il y a moins d'un quart des gens qui en ont entendu parler. Il y a plus de la moitié qui en ont une mauvaise image et moins d'un tiers qui a un intérêt pour la matière. C'est à peu près pareil en Allemagne. Donc c'est très contrasté.
Après, ça dépend aussi, j'imagine, des tensions locatives et des besoins, justement, à la location.
Peut-être. En Italie, il y a une assez faible tension locative pourtant et les Italiens sont assez motivés. En France, par exemple, il n'y a que 6% des Français qui veulent faire un investissement locatif cette année. C'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est, mais assez peu ont envie d'en faire cette année. En Italie, c'est 3 fois ce chiffre. On est à quasiment 3 fois, on est à 16%.
Ouais.
En Espagne, c'est le double. En fait, les gens dans le sud sont 2 fois à 3 fois plus motivés. Et on pense que l'avenir de l'investissement locatif est côté Méditerranée, parce qu'il y a un faible niveau d'information, il y a une motivation qui est très forte et c'est un marché très peu saturé. Il y a moins d'une personne sur 10 au Portugal qui a fait un investissement locatif contre 1 sur 4 en France. Alors pardon, 1 sur 4 UK et 1 sur 5 en France.
Mais du coup, vous, chez Mastéos, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez conseiller aux gens d'aller investir ailleurs qu'en France ?
C'est ce qu'on fait un peu. Hein. On a, nous, une équipe en Espagne, enfin dans 3 villes, à Madrid, Barcelone et Valencia, et on a de plus en plus de flux provenant de la France, de gens qui sont un peu frustrés par les rendements de l'Hexagone et qui vont en chercher des biens plus attirants en Espagne. On a un problème de financement bancaire où
Mais j'allais dire, est-ce que c'est plus simple de trouver un crédit
C'est pas plus simple, mais comme c'est moins cher, à la limite, ceux qui ont un peu d'épargne n'ont pas trop de problèmes à mettre un peu plus d'apport pour aller chercher du rendement.
Je renvoie à nos auditeurs, mais là il va falloir descendre bas dans le site, mais vous veniez il y a quelques mois nous voir justement pour parler de tel et tel marché, et presque à chaque fois vous mettiez des petits warnings en nous disant attention, le notaire c'est pas pareil, attention le cadastre c'est pas pareil, attention, donc faut pas quand même partir non plus la fleur au fusil justement en disant j'ai entendu Vignal, il nous dit que je vais me faire en allant investir là-bas.
Oui.
Je vous laisse compléter le texte à trous. Voilà, donc ça veut dire quand même qu'il ne faut pas oublier toutes ces spécificités locales aussi. Il n'y a pas que le rendement qui doit nous attirer.
Absolument, absolument. Ouais. Bon, là, on parlait surtout des locaux à l'heure. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, c'est un peu plus sportif quand on s'aventure dans d'autres pays. Et donc, et en plus, je pense que c'est alimenté par la défiance bancaire du moment. Il y a une vraie défiance envers les banques et ça alimente un peu sur l'aspect valeur-refuge de la pierre. Ça, c'est ce qu'on observe. Après, il y a une deuxième partie.
L'aspect passoire ?
Les passoires, ah. Mon sujet préféré. Oh, oui. La rénovation énergétique. Alors là, c'est assez marrant aussi parce que la France est la pire élève de l'Europe sur les gens, quand on leur demande s'ils sont motivés à faire des travaux de rénovation énergétique cette année. Seuls 30% des Français disent qu'ils en feront une dans les 12 prochains mois.
Ah, ouais.
Alors que la moyenne est plutôt à 50% dans les autres pays. Et ça monte très haut en Italie, où c'est plus du double et plus de 60% des Italiens veulent faire une rénovation énergétique cette année. Ce sont aussi les premiers à se plaindre de l'isolation de leur logement. J'étais à Rome, on avait fait une émission et je me rappelle que toutes les étiquettes sur les agences immobilières étaient G. Toutes. C'est F, G, F, G partout à Rome. En fait, c'est un pays où l'immobilier est très très mal isolé et il y a une vraie volonté de rénover. C'est l'inverse en Angleterre où seuls 17% des Anglais se plaignent de l'isolation. Donc 17% versus 63% en Italie. Voilà. Après, il y a une harmonisation européenne qui est en train de se faire. Ça discute beaucoup à la Commission pour faire passer des lois à échelle européenne qui sont encore plus ambitieuses que celles en France.
Que celles qu'on a en France, hein, que la loi climat et résilience. Hein.
Ouais. Là, il parle de 2030 pour les E. Versus 2034 en France.
Ouais, ouais, ouais.
Et ce qui est intéressant quand on compare tous ces pays là-dessus, les deux sujets sont liés, mais en France, on est le seul pays à se servir de l'investissement locatif pour faire passer une loi thermique. C'est pas le cas dans les autres pays. C'est-à-dire que les Italiens, ils n'ont pas une interdiction de location des passoires thermiques. On est les seuls à être, et c'est les bailleurs, les investisseurs locatifs,
qui eux-mêmes,
qui sont porteurs de ce projet environnemental. Et c'est une vraie spécificité française.
On n'est pas dans le bâton, quoi. C'est ça que.
Bah, dans les autres pays, il y a des aides, il y a des subventions, mais il n'y a pas d'interdiction locative. Nous, on se sert de l'investissement locatif comme porte d'entrée vers la rénovation énergétique. Et c'est assez intéressant. Et on peut parler rapidement des freins. Bon, les freins à l'investissement locatif, c'est pas d'argent, trop complexe, et je préfère une résidence principale, les trois premières raisons. Et les freins côté rénovation énergétique, c'est le coût des travaux, la complexité des travaux et le manque de staff. Et ça, on le sait.
Et juste, j'avais une question avant de terminer. Si je veux investir dans un autre pays, je peux bénéficier de quel type d'aide ? Ça, vous avez regardé ou pas du tout ? C'est une petite question comme ça. Parce que si, par exemple, je veux aller investir à Rome, où il n'y a que des passoires, je peux bénéficier d'aide locale ? Ou alors, comme je serai étranger, je ne pourrais pas ? Enfin, c'est un vrai sujet, ça aussi, non ?
Technique. Je sais que les locaux ont des avantages fiscaux assez intéressants sur la réno énergétique. C'est le cas à peu près dans tous les pays d'Europe. Il y a des subventions et des avantages fiscaux. En tant que non-résident fiscal, je doute qu'elle s'applique.
D'accord. Bon, la prochaine fois que vous venez, franchement...
La rénovation.
La prochaine fois que vous venez, on en parle. Parce que avec comme ça, on va emmener les Français ailleurs, comme ça.
D'accord. Pour refaire voyager.
Et pour rénover.
Premier observatoire européen de cet immobilier locatif présenté par Thierry Vignal. Merci Thierry.
Merci.
Mastéos qui nous accompagnait ce matin. Merci Marie, à lundi.
À lundi.
Pour la vie immo, dans un instant, ce sont nos traders qui auscultent le marché. N'oubliez pas les replays. Tiens, j'en parlais pour les précédents passages de Thierry. Ces replays qui vous attendent sur notre site.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Chaque jour à 10h30, deux traders affûtent leurs arguments en consultant leurs écrans pour vous donner les clés graphiques de la séance du jour. Comme chaque vendredi, on retrouve Stéphane Van Uffel depuis Technibourse et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux d'être au rendez-vous. On file tout de suite du côté de Technibourse. Stéphane Sauduteil, comment voyez-vous les choses ?
Écoutez, on reste toujours dans une zone un petit peu neutre, entre 7000 et 7150. On a vu que 7150, 7160, c'était infranchissable, hein, sans éléments un petit peu nouveaux, ou sans de nouveaux catalyseurs. C'est vrai que le gap ouvert lundi entre 7049 et 7083 a servi de force de rappel. On est venu combler ce gap. Mais pour l'instant, on tient au-dessus des 7030 points. Donc, on peut dire qu'on est du bon côté de la barrière au-dessus des 7000 points, mais on n'a pas une garantie absolue de poursuite de la hausse au-dessus des 7150-160. Donc, c'est vrai que ça reste pour moi une zone de neutralité. Par contre, si on s'enfonçait sous les 7000 points, là, on remettrait de l'huile sur le feu et on pourrait de nouveau hein, tester la zone de points bas qui était la nôtre la semaine dernière, vers les 6800, 6900, on a aussi une zone de support. Voilà, on a de nouveau du stress un petit peu sur les banques. Hein. C'est le secteur bancaire qui enflamme un petit peu le marché ce matin à Paris, avec Total Energy également. Heureusement que les valeurs du luxe baissent dans des proportions un petit peu moindres, parce que sinon ça appuierait encore un peu plus fort sur la baisse du CAC 40. Voilà, donc on a vu les taux d'intérêt aussi américains continuer à refluer, ce qui fait que sur les États-Unis, le Nasdaq 100 reste quand même assez ferme, et puis le Dow Jones en fait n'a pas réussi à s'installer au-dessus des 32 500 points, donc il reste toujours un petit peu faible, ce qui explique également hein, la faiblesse du CAC 40 ce matin. Et on a aussi l'euro-dollar hein, qui est sorti de ce range 1,0520-1,0760 qui a réalisé quasiment son objectif à 1,10 à 1,0930, et là on revient tester en fait par le haut la zone de résistance qui était anciennement la nôtre à 1,0760. Donc voilà, c'est plutôt une zone d'achat hein, sur 1,0760 sur l'euro dollar pour viser de nouveau un rebond. Donc marché un petit peu lourd, mais tant qu'on n'est pas en dessous des 7030 points, je dirais que on préserve l'essentiel pour l'instant.
Bon, voilà le regard proposé depuis Technibourse par Stéphane Sauduteil. Bon, Jean-Louis Cussat, qui paraît que mon cerveau a disjoncté un quart de seconde et que je ne vous ai pas appelé comme il fallait. Bon, donc mille excuses. Jean-Louis Cussat, donc chez Perceval Finance Conseil, votre regard sur cette séance de fin de semaine, sur cette tendance de la Bourse de Paris.
Volatilité implicite 20. Presque tout est dit, c'est-à-dire qu'on a une hyper méfiance, et après les portes de saloon qu'on a eues ces derniers temps, on a un peu les essuie-glaces, mais bon, je conserve, si vous voulez, bon, il y a une neutralité, certes, mais j'ai toujours un petit biais baissier en vendant des calls, notamment profitant de la très forte volatilité, donc on peut vendre des call spread, on peut faire tout un tas de stratégies basées sur l'idée que bon, on peut garder un petit biais baissier. Et sinon, ben, la zone large d'aller-retour, c'est en gros 7030, 7160. Et donc, on est là à essayer de profiter d'opportunités, d'écart-types, de signaux techniques. Vous voyez, mais on ne s'inscrit pas dans une direction marquée pour l'instant encore. Le marché est affecté par le secteur bancaire. Les bancaires reculent, Crédit Suisse, UBS, et en France, Soggen, BNP. Total aussi, avec le pétrole qui n'est pas terrible, et puis les dernières rumeurs. Enfin bon, rien de bien méchant sur Total. Mais il y a une ambiance extrêmement confuse, on va dire. Les investisseurs ne savent plus à quoi se raccrocher. L'équation est de plus en plus difficile à résoudre avec la crise bancaire qui est là, qui couve toujours. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand je vous disais, on est peut-être encore dans l'œil du cyclone, ben aujourd'hui, je le dis encore, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. On ne sait même plus ce que vont faire les banquiers centraux, puisque certains investisseurs pensent que les taux vont peut-être même rebaisser, plutôt que continuer à progresser comme c'était prévu au départ. Voilà, c'est vraiment la confusion qui domine, et on le voit également, peut-être d'une manière encore différente, mais un fort mouvement sur l'euro-dollar. Hier, cet euro-dollar qui s'est envolé, aujourd'hui, il rebaisse très fortement. En effet, on est revenu, nous, dans le trade du jour, à 8h du matin, on a proposé un achat sur 1,0777. Voilà, c'est une zone qui a été atteinte, on est dessus en ce moment. C'est un niveau de rebond possible, mais quand les mouvements sont très puissants comme ça, on se pose toujours beaucoup de questions métaphysiques. Donc, c'est vraiment la confusion, l'hésitation, beaucoup de questions qui dominent le marché.
Merci beaucoup Jean-Louis. Jean-Louis Cussat, donc Perceval Finance Conseil, Stéphane Sauduteil chez Technibourse. On vous retrouve tout à l'heure à 11h30. Stéphane, d'ici là, bonne séance et bonne fin de semaine sur le marché. Le CAC 40 qui consolide donc, hein, -1,45, 7035 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Bruno Le Maire veut raccourcir les concessions d'autoroutes. Le ministre demande au Conseil d'État comment réduire les durées de quelques années. Quel est l'objectif ?
C'est de corriger les erreurs multiples qui ont été commises en 2006 par l'exécutif de l'époque. À l'époque, Bercy a donc vendu l'exploitation des autoroutes pas les autoroutes. L'exploitation des autoroutes à plusieurs acteurs privés, avec des concessions très longues. Vous connaissez Fage, vous connaissez Vinci, vous connaissez l'Espagnol Abertis, l'Australien Macari. Et également, à l'époque, il a très mal ficelé les contrats, face à des acteurs privés qui, eux, étaient bien équipés en termes d'experts juridiques pour finalement en profiter. Et aujourd'hui, les contrats sont blindés pour les concessionnaires au détriment de l'État. Et puis, il s'est trompé surtout sur les calculs de rentabilité. Vision complètement erronée sur quel allait être l'avenir des taux d'intérêt. Et en fait, les taux ont considérablement baissé, ce qui n'avait pas été estimé correctement au départ. Et évidemment, quand les taux baissent beaucoup plus que prévu, le poids de la dette des acteurs privés est considérablement allégé et leur rentabilité, évidemment, en profite. Alors, je rappelle que le modèle économique des autoroutes, enfin des concessions, c'est pas comme le modèle économique d'une entreprise. A-t-elle vendu plus de yaourts en 2023 qu'en 2022? Quel est son EBE, excédent brut d'exploitation? Non, c'est ça. On utilise ce qu'on appelle le TRI. Le TRI, c'est le taux de rentabilité interne, et c'est un solde entre tout ce qui a été dépensé, enfin tout ce qui a été gagné par les péages, toutes les entrées et toutes les sorties. Les sorties, ce sont les investissements, ce sont les reprises de dettes de départ, et donc c'est ce solde entre entrées et sorties qu'on observe sur l'ensemble de la durée de la concession pour déterminer la rentabilité. C'est donc, on a souvent tendance à regarder les autoroutes, le chiffre annuel. Non, c'est pas le chiffre annuel, c'est un chiffre sur l'ensemble de la... C'est le TRI, c'est un peu plus complexe, un peu plus technique, mais c'est le seul moyen de comprendre vraiment comment ça fonctionne, le business model d'une concession.
Donc il faut comprendre que Bruno Le Maire, il veut appliquer les solutions du fameux rapport de l'Inspection Générale des Finances qui pointe la forte rentabilité des concessionnaires.
Alors c'est un peu l'idée, c'est pour ça qu'il y a la saisine du Conseil d'État, parce que c'est un sujet éminemment juridique. Je sais qu'il est regardé par tout le monde avec de l'émotion et généralement une très forte critique sur le fait d'avoir bradé les autoroutes. C'est un sujet juridique. Effectivement, il y a eu ce rapport de l'Inspection Générale des Finances que Bercy aurait voulu passer sous silence et que le Canard Enchaîné a révélé. Il y avait trois pistes dans le rapport de l'IGF. La première, c'est on casse les concessions et on arrête tout en 2026. Alors que la date normale, c'est entre 2031 et 2036, aujourd'hui. Deuxième solution, on impose une baisse des péages. Parce que justement, la rentabilité est très forte et qu'elle serait supérieure aux prévisions. Et troisième solution, on taxe. On taxe les concessionnaires. Alors, sur chaque point, l'État sait que s'il active une de ces trois solutions, il va devant les tribunaux. Et que justement, à cause des manquements de la rédaction des contrats sur le terrain juridique, il perd. Il va perdre à tous les coups. Et donc, la saisine du Conseil d'État sert à imaginer ce qui serait possible pour éviter de se prendre une déculottée devant les tribunaux, avec évidemment à la clé des indemnités à payer. J'ajoute que sur la rentabilité des autoroutes, il y a quand même une vraie bataille d'experts. Vous avez ce rapport de l'IGF qui arrive à la conclusion que c'est plus rentable que prévu. Et vous avez eu pratiquement au même moment, à la fin du mois de janvier, le rapport de l'autorité indépendante publique de régulation des autoroutes, c'est quand même son métier, qui affirme que la rentabilité est conforme aux prévisions. Bataille d'experts, bataille de chiffres, c'est pas moi ici qui suis ni à l'IGF, ni à l'ART, l'autorité de régulation des transports, qui va vous apporter une réponse définitive. En tout cas, s'il y a tant de privés pour gérer ces trucs-là, il y a quand même de l'argent à gagner.
Ils sont pas philanthropes.
Voilà, on est bien d'accord.
Qu'est-ce qui peut se passer concrètement?
Alors, sur la durée des concessions, rien. Oui, ce serait merveilleux d'envoyer ce signal à l'opinion, mais en fait, la réalité, c'est que ça coûterait une fortune devant les tribunaux de réduire la durée des concessions, donc on va aller au terme des durées actuelles, et puis dans les futures concessions, probablement qu'on sera sur des durées beaucoup moins longues. Après, sur les prix des péages, n'espérez pas grand-chose. Il n'y a rien dans les contrats, excusez-moi, je reviens au juridique, au contrat, il n'y a rien dans les contrats qui prévoit qu'on peut éventuellement baisser les prix des péages si d'aventure la rentabilité était supérieure aux attentes. C'est pas prévu. Alors, je veux bien qu'on décide de leur tendre le bras, mais dans les contrats, il est prévu le mécanisme de hausse, qui n'est d'ailleurs pas une liberté des concessionnaires, qui est complètement encadrée et validée par le gouvernement tous les ans, mais il n'y a pas de mécanisme de baisse prévu. Après, la piste de la renationalisation forcée, c'est inenvisageable. J'ai vu ce matin quelqu'un sur Twitter qui, après cette même chronique sur BFM TV, « Ah, on n'a qu'à renationaliser pour un euro symbolique !» Mais non, ce ne sera pas un euro symbolique. Si on renationalise, c'est pareil, on va se retrouver devant une montagne astronomique. L'estimation, c'est 40 à 50 milliards d'euros pour renationaliser. Le seul moyen, c'est d'attendre la fin des concessions, si on veut le reprendre au niveau public, pour les reprendre pour rien, là, cette fois-ci. Mais si on s'amuse à nationaliser de force avant la fin, il faudra évidemment payer. Et puis, l'intérêt d'un système de concession, c'est qu'au moins, seul l'utilisateur paye. Quand vous avez un système public, c'est toute la collectivité qui paye et tous les contribuables. Après, objectivement, si l'État devait investir et devait aujourd'hui dépenser de l'argent, il vaut mieux qu'il le fasse dans les énergies du futur, dans les réseaux de bornes de recharge électrique, plutôt que d'aller reprendre en main la gestion d'un énorme réseau d'asphalte qui est quand même globalement l'un des mieux entretenus d'Europe. L'un des plus chers aussi, c'est vrai. On est à 7 euros en moyenne pour 100 km. Mais enfin, aller dans les pays où c'est gratos, quand c'est gratuit, c'est pourri. Hein. Donc voilà, et on sait aussi pourquoi on paye, il n'y a qu'à voir l'état de nos autoroutes. Alors, c'est vrai que la bonne santé des autoroutes, c'est quand même aussi une aubaine pour les finances publiques. Puisque les réseaux au total, les réseaux au total en taxes et impôts versent 5 milliards d'euros. Tous les réseaux, hein, tous les réseaux. 5 milliards d'euros au total à l'État. Et quand vous passez au péage, sur votre ticket de péage, vous avez 43% qui partent dans les poches de l'État. Ce qui d'ailleurs, au passage, confirme que ce soit à la pompe ou au péage, on s'est fait bien rincer quand on est un automobiliste, lourdement et tous azimuts. Il y a une bonne nouvelle quand même du jour pour l'automobiliste, c'est que le gouvernement va revaloriser le barème d'indemnité kilométrique de 5,4%. Il avait déjà été revalorisé de 10% en janvier. Ce qui fait que pour un travailleur trajet domicile-travail ou pour un professionnel, ça représente une déduction forfaitaire qu'on applique sur ses revenus pour payer tout simplement moins d'impôts. Et l'autre baume anti-vie chère, c'est bien sûr le chèque essence, enfin carburant. Vous avez jusqu'à la fin du mois de mars pour en faire la demande si vous êtes éligible. Il y en a plein qui ne l'ont pas encore fait.
Ouais. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Tout de suite, on jette un œil sur les marchés.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Le marché et ce CAC 40 qui avait commencé par respirer puis qui vire peut-être à la consolidation là, 7017 points. On perd 1,71%. Le seuil des 7000 ou est peut-être dans la ligne de mire des opérateurs. On baisse d'ailleurs un peu partout dans les mêmes ordres de grandeur. Hein, l'Eurostock 50 abandonne 1,6% en ce moment. Une seule valeur sur Nash chez Pernod à 207 qui gagne 0,29. Et puis sinon du rouge assez foncé sur Soggen, -5,75. Sur Renault, -4,16%, sur BNP Paribas, -4,09%. L'once d'or est à 1,991 $, l'euro dol à 1,0762.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Deux acteurs de marché, comme chaque vendredi à cette heure-ci. Sarah Thirion, bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour TPI Cap et François Monnier, bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour la rédaction d'Investir. Bon, le rebond de la bourse, alors ce matin pas trop. Mais bon, ce rebond, enfin malgré tout, faut quand même être honnête, malgré les quelques séances de purge, on est quand même sur un marché parisien qui reste quand même très bien orienté et qui sait rebondir. On l'a vu il y a encore quelques jours. Ce rebond, est-ce qu'il vous semble suffisamment solide pour justement résister aussi à toutes ces tentatives de respiration, de consolidation, de prise de bénéfices?
Non, c'est trop tôt pour dire qu'on est complètement rassuré. On sait qu'il peut y avoir d'autres répliques, donc tout le monde est en train de surveiller un petit peu quels sont les établissements de crédit qui sont fragiles. On a compris que la situation était quand même compliquée, voire grave, puisque les autorités ont réagi de façon éclair. Hein. En l'espace d'un week-end, Crédit Suisse a disparu et se fait avaler par UBS sous une pression amicale des autorités suisses et de la Banque Nationale Suisse. On a quand même Silicon Valley Bank qui a fait faillite, mais on a garanti tout de suite les dépôts de l'ensemble des clients, quel que soit le montant. Donc on voit que les autorités, la Fed a changé complètement sa stratégie monétaire en disant ils n'ont pas augmenté de 50 points de base, mais uniquement de 25 points de base cette semaine. Et finalement, ce qu'on comprend, c'est que on n'aura peut-être qu'une seule hausse de taux et encore de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans les contrats futurs. Donc on voit que les banquiers centraux, les autorités réagissent de façon extrêmement rapide. Donc ça montre que la situation, elle est quand même délicate, elle est fragile. Ils n'ont pas encore sorti le bazooka. On a eu quand même une énorme rumeur en début de semaine qui était de dire, les autorités américaines vont garantir
et tous les dépôts,
des dépôts, quels que soient les montants, dans n'importe quel établissement bancaire situé aux États-Unis. Et là, on a eu quand même hier un démenti, enfin mercredi soir, un démenti de Janet Yellen qui a dit non, ça, il faudrait passer devant le Congrès. Pour l'instant, on n'est pas dans une logique où tout le monde est protégé. Ce sera au cas par cas. En attendant, il y a cette protection jusqu'à 250 000 dollars par déposant. Donc, on est pas, ils n'ont pas encore sorti le bazooka aux États-Unis, mais on voit que, en tout cas, ils sont prêts à le sortir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des banquiers qui ont énormément appris et des autorités qui ont énormément appris la crise de 2008, qui ont compris que dans ces situations-là, dès qu'il y a un sujet bancaire, il fallait réagir immédiatement. Donc, on a une réactivité qui montre que le marché peut pas se...
On a appris de la crise,
donc ouais. ça c'est un frein et donc à la baisse du marché, parce que tout de suite, il y aura du répondant de la part des banquiers centraux, et on le sait, personne ne va se mettre en face d'une banque centrale, mais la situation reste quand même tout à fait délicate, et on attend quelques répliques lorsqu'il y a des séismes comme ça. Ben, voilà, on n'est pas à l'abri d'un autre établissement qu'on découvre, on ne connaîtra peut-être pas forcément le nom, mais on sait que ça peut faire effet de domino. Donc, il y a aujourd'hui un devoir de vigilance et de prudence, même si c'est vrai, on reste sur une tendance qui est quand même relativement positive. On a une très belle hausse du CAC 40 depuis le début de l'année et on voit qu'il y a des capacités de rebond qui sont assez spectaculaires.
Sarah, comment considérez-vous ce contexte de marché, effectivement, la capacité du CAC à peut-être aller plus haut, on va le voir, mais enfin voilà, déjà ce rebond, est-ce qu'il vous paraît de nature à supporter ces phases de doute ou de respiration?
Il paraît qu'on ne combat pas les banques centrales. Donc, comme elles font le whatever it takes, quoi qu'il arrive dans toutes les configurations, elles le feront une fois de plus. Pour moi, c'est sidérant et je ne suis pas sûre qu'on ait appris de 2008. En fait, à quel moment, après avoir vécu Lehman, une banque de surcroît américaine se paie le luxe d'être majoritairement investie en obligations long terme à taux fixe quand elle a une banque centrale qui remonte ses taux? Je sais pas, déjà, c'est très interpellant. Je ne comprends pas effectivement pourquoi la régulation aux États-Unis sur les petits établissements n'a pas été maintenue à la même, enfin, dans les mêmes
proportions. Ils l'ont demandé.
Et effectivement, cette crise bancaire, elle montre encore une fois qu'on peut pas vivre sans le soutien des banques centrales. Donc, les banques centrales ont remonté les taux, ça a resserré les conditions de crédit, c'est plus difficile pour les banques. Et voilà. Et il faut recommencer, refaire l'histoire à l'envers. Donc, on ne combat pas les banques centrales. Elles vont être là. Ne vous inquiétez surtout pas. En revanche, il peut y avoir des prophéties autoréalisatrices et parfois c'est compliqué de lutter. Si les gens paniquent et perdent confiance dans la solvabilité du secteur et sa capacité de liquidité, secteur bancaire, on peut avoir une accélération des dépôts, on peut avoir effectivement un nouveau resserrement des conditions de crédit qui abonderont donc à un scénario de récession. Et donc là, évidemment, l'inflation, ce ne sera plus le problème des banques centrales puisqu'il n'y en aura plus. Donc voilà, on aura réglé ce problème d'une autre manière. Ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas comment, si ça peut tenir, si les marchés peuvent tenir ou pas. Ce que je sais, c'est qu'évidemment, ça doit nous conduire à changer les allocations. Mmh. Voilà.
Du coup, qu'est-ce qui peut permettre finalement au CAC d'aller plus haut, François? Parce que c'est amusant d'ailleurs, parce que la dernière fois, on avait échoué à 6999. On n'avait pas osé, entre guillemets, franchir un seuil.
C'est vrai.
Et là, on a juste fait 7401. Hein. On n'a pas pris beaucoup plus d'initiatives. On peut aller plus loin et avec quoi?
Oui, on a la capacité d'aller beaucoup plus haut. D'abord, il y a plusieurs raisons. D'abord, on voit, et on a vu dans la publication des résultats 2022, que les entreprises étaient extrêmement solides, extrêmement rentables. On redoutait des marges attaquées, ça n'a pas du tout été le cas. On a eu des capacités à relever les prix dans tous les secteurs. On a des entreprises qui innovent, on a des entreprises qui font des acquisitions. Donc, le socle industriel, les entreprises de services, je mets de côté les banques, tout le monde est au rendez-vous. Donc, on a une solidité qui est remarquable, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va avoir, à partir de cet été et de cet automne, une reprise économique en Chine, grâce à la nouvelle politique sanitaire qui finalement n'a pas occasionné des reconfinements. Donc on a une Chine qui redémarre, et ce surplus de croissance chinoise attendue dans les mois qui viennent, va profiter à l'ensemble de l'économie mondiale et européen, et bien sûr au CAC 40. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut voir que on n'a pas d'incident, et on n'a plus d'incident grave de chaînes d'approvisionnement qui sont défectueuses. Là, on a une situation qui s'améliore. On avait encore l'an dernier des vrais soucis d'approvisionnement. On le voyait beaucoup dans l'automobile. On redoutait des cassures dans la chaîne d'approvisionnement énergétique cet hiver. Bref, on voit que la situation se normalise, alors qu'il a fallu quand même attendre plusieurs trimestres depuis le Covid pour retrouver des flux, j'ai envie de dire, plutôt classiques, traditionnels. Donc, on est sur une situation quand même qui redémarre. Et puis après, techniquement, c'est mon dernier point, c'est que la configuration des indices a considérablement changé. Si on prend l'exemple de la France, on avait un CAC 40 qui était un peu gêné aux entournures parce que les plus grandes pondérations, c'était les entreprises qui ne livraient pas de croissance.
Oui. On avait du rendement.
On avait un France Télécom à l'époque, Orange, qui était une des plus grosses pondérations qui n'a pas de croissance. On avait du Total Energy qui était la plus grosse pondération qui n'avait pas de croissance. On avait du Sanofi qui n'avait pas de croissance. On avait du BNP Paribas qui n'avait pas de croissance. Là, on a un profil du CAC 40 qui est beaucoup plus dynamique. Avec, alors peut-être qu'il y a peut-être trop de luxe, ça c'est un autre débat, mais aujourd'hui les plus grosses pondérations ce sont des valeurs de luxe, et les valeurs de luxe qui sont croissance, c'est une croissance dynamique, avec une belle visibilité et des belles marges. Donc on a un profil du CAC 40 beaucoup plus performant. Et ça change complètement la donne. Donc on a traîné pendant des décennies avec des valeurs du CAC 40 qui étaient là uniquement pour, je caricature un petit peu, mais distribuer des dividendes. Et là, on a des entreprises qui sont innovantes, qui ont des capacités d'augmenter du prix, du pricing power, avec une croissance extrêmement rentable. Et ça change complètement la donne du point de vue des investisseurs en disant, ben voilà, on a un CAC 40 qui est dynamique, qui est en fait un CAC 40 conquérant. Alors qu'avant, on avait un CAC 40 qui était extrêmement défensif, où vraiment l'intérêt pour un investisseur américain ou asiatique de venir sur le marché français, c'était de dire, je veux des dividendes. Là, on veut de la performance et on a les moyens d'avoir de la performance. Non. Et ça change complètement la donne, en tout cas de la perception des indices. Donc, les 7005, oui, je pense que ce sera battu. Oui.
La composition de l'indice change la donne, on le comprend. Ça veut dire qu'effectivement...
On n'en parle pas assez, la composition de l'indice. Mais
on peut aller plus haut. Il faut dire que souvent, les mouvements... Enfin, rien n'est fait pédagogiquement chez Euronext, etc.
Oui, on est d'accord.
Pour que la composition et la façon dont évolue et dont se réunit le Conseil scientifique des indices, voilà.
On pourrait faire un débat là-dessus.
On pourrait faire de la pédagogie un petit peu mieux. Là, le nombre de fois où on s'est pris les cheveux en quatre pour comprendre, c'était pas évident. Oui, revenons à nos moutons. On peut aller plus haut, effectivement, grâce notamment à ce changement de typologie.
On a cette chance en France extraordinaire d'avoir cette pondération sur le luxe, c'est vraiment l'exception française. Alors on va dire elle est franco-italienne, mais elle est quand même essentiellement logée en France puisqu'ils n'ont quasiment plus de grands noms du luxe. Mais on a cette exception extraordinaire, un secteur qui, quand même, avant crise était en croissance de 6% en moyenne annuelle, ce qui est pas mal, qui résiste très bien dans des périodes de trading down parce que ça fait peu ou prou le PIB. Voilà. Et donc on a cette chance d'avoir cette très grosse exposition au luxe qui, effectivement, en plus va bénéficier de cette réouverture en Chine. Avec 5% de croissance du PIB en Chine, localement, le luxe peut faire un plus 30. Ils n'ont pas été privés un an ou un an et demi. Ils ont été privés 3 ans, ces gens-là. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils n'ont pas envie de s'acheter une poêle à frire. Ils ont envie de voyager, ils ont envie d'aller au restaurant, ils ont envie de consommer, ils ont envie de s'acheter un sac à main, ils ont envie de profiter, de vivre.
Et du coup, ça peut nous emmener nettement plus haut.
Ça peut nous aider beaucoup par rapport à d'autres indices européens. On est très avantagés.
Mais en étant hyper thématisé aussi, enfin, je reprends le mot de la diversification qui est un saint mot en gestion de patrimoine. Étant hyper thématisé, on prend aussi un risque.
Vous avez raison, mais finalement, quand on regarde les indices, ils sont tous thématisés. Quand vous allez aux États-Unis, vous achetez de la tech.
Oui, de la tech. En Allemagne, c'est de l'industrie.
De l'automobile. Ouais. Et je pense qu'il faut peut-être mieux acheter du luxe français que de l'automobile allemande, où on sait qu'il y a une révolution avec les voitures électriques et on voit que les Chinois innovent énormément et que les Allemands ont énormément de retard. Donc, se dire j'achète de l'industrie automobile allemande aujourd'hui, c'est un véritable défi. Que si vous achetez du luxe, eh bien là, vous allez pouvoir profiter.
Et du coup, les grandes thématiques aujourd'hui qu'il faut avoir en portefeuille, c'est quoi?
Moi, j'en vois trois. La première, c'est le rebond chinois qui devrait commencer à se propager à partir de cet été. Donc, c'est très, très bon sur le luxe, oui. C'est bon aussi pour le tourisme. C'est bon pour l'ensemble des acteurs, donc les aéroports de Paris, Amadeus en Espagne qui font des logiciels de réservation pour les aéroports. On a, bien sûr, JC Deco qui est très implanté en Chine. C'est bon pour l'hôtellerie, Accor, Intercontinental Hôtel. Donc ça, c'est la première thématique. La deuxième thématique, c'est toujours, on en parle un peu moins en ce moment, mais elle est toujours extrêmement dynamique, c'est la transition énergétique du Schneider électrique, bien sûr, mais aussi du Neoen ou d'Iberdrola. Et puis enfin, j'ajouterais que si on a le sentiment, et ça va se confirmer, je pense, dans les mois qui viennent, qu'on arrive au bout de la hausse des taux d'intérêt au niveau de, américain, eh bien, il faudra remettre, bien sûr, plus de tech dans les portefeuilles, puisqu'on sait que la tech est allergique à la hausse des taux. Et ça, on a une vraie... On arrive à la fin d'un cycle, en tout cas, de resserrement monétaire aux États-Unis. Alors, quand est-ce qu'il aura lieu? C'est difficile de le savoir, mais on sait qu'on a... On est déjà dans la phase de décélération. On n'est plus sur les 75 points de base de hausse, on est plutôt sur 25 points. Donc, il faut bien sûr avoir de la tech.
C'est des thématiques que, ouais,
qu'on a beaucoup poussé. La Chine, évidemment, et tout ce qui découle de la Chine. Et j'ajouterais, évidemment, le travel retail qui participe de ce mouvement. Il y a des valeurs dédiées, mais il y a aussi des sociétés qui ont des pans de business qui sont matérialisés dans ce travel retail. Et puis, évidemment, je partage complètement le point de vue de François sur la transition énergétique. C'est un fait. Et en plus, évidemment, on est toujours dans un contexte qui reste restreint d'un point de vue énergétique. Donc, tout le monde est en train de se préoccuper finalement beaucoup plus vite que prévu de ce sujet. Et le dernier thème, François propose la tech, et moi j'élargirai le conseil à l'ensemble des valeurs de croissance, puisqu'elles ont été désertées depuis que la Fed a entamé son mouvement de relèvement de taux. Donc la thématique de croissance et surtout en fait les valeurs de croissance qui savent s'affranchir en fait du PIB et faire toujours mieux que le PIB.
Merci à tous les deux pour ces quelques éléments de réflexion. On se retrouve tout à l'heure.
Avec
vous
plaisir.
Répondrez aux questions de nos auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Dans un instant, un petit détour par les marchés, puis regard croisé est à suivre.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.